Bonjour mes frères et sœurs. Quand vous êtes rentrés dans la salle ce matin, vous êtes-vous regardé? Non. Avez-vous regardé, en serrant la main ou en embrassant, votre frère ou votre sœur? Vous savez, c'est important la mine. Et le visage, des fois, parle. Savez-vous que le Seigneur, au culte, enfin dans l'Église, nous observe parce qu'il nous aime. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le cœur. Et encore. Il regarde les pensées. Oui. Et encore. Mes sœurs, on passe tellement de temps avec cette partie de notre corps, tellement empommadé, huilé. Il regarde notre visage. Il nous dévisage. Et ce matin, je disais au Seigneur, il était 3h30, je lui dis quand même, tu leur diras ceci. Alors je vous le dis, le Seigneur nous dévisage. Allez, laissez-vous dévisager par des yeux, les yeux de Dieu. Il regarde. Et puis il observe et il voit quelque chose. Il ne voit pas le décor, parce que nous, nous pouvons cacher, nous pouvons dissimuler, nous pouvons dire « bonjour cher frère » et penser autre chose, mais pas Dieu. Il regarde notre visage et comme vous l'avez dit, il sonde notre cœur. Et ce matin, je voudrais vous dire ce qu'il m'a dit, il va faire quelque chose dans certaines familles. Le croyez-vous? Nous ne sommes pas réunis autour d'un cadavre inerte, mort et froid, mais d'un Christ vivant. Alors l'histoire que nous allons lire, le témoignage que nous allons lire, c'est le témoignage d'une femme que Dieu regarde, et il regarde son visage. Et après avoir regardé, on va le lire, vous allez voir si ça montre rien, après l'avoir regardé, il lui dit, qu'as-tu? Donc il y avait quelque chose sur le visage de cette femme. Cette femme était une maman. Une maman qui pleurait, ça arrive. Et vous savez-vous pourquoi elle pleurait, la maman? À cause de ses enfants. Est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça nous arrive d'avoir des larmes à cause de nos enfants? Non, bien sûr, je n'avais pas ce problème-là, tant mieux. Mais ceux qui ont des enfants savent très bien que les plus grandes douleurs que nous avons, ça vient d'eux, parce que nous les aimons. Mais aussi, si nous n'avons pas d'enfants, nous avons une famille. Et des fois, nos douleurs viennent de la famille. Un exemple. Vous avez une réunion de famille, d'ailleurs, on va la lire tout à l'heure, la réunion de famille. Vous avez une réunion de famille qui commence bien, et puis au cours de la réunion de famille à table, il y a des réflexions. Je sais bien que ça n'existe pas, les gens qui font des réflexions. Des mots, des paroles, et qui blessent, et qui vont dire, bon, bah, écoute, l'année prochaine, à l'anniversaire, on n'y mettra plus les pieds. Mais ce que je dis là, ça n'existe pas, bien entendu. Eh bien, assez dit, je vous invite à aller dans une réunion de famille, plutôt à la fin de la réunion de famille, plutôt à la conclusion de la réunion de famille, dans un livre très facile à trouver, le livre de la Genèse. Et lorsque vous avez le livre de la Genèse, merci de l'ouvrir, mes frères et sœurs, au chapitre 21. Nous allons rentrer dans la famille d'un monsieur qui s'appelle Abraham, qui est marié avec sa femme Sarah. Il a un fils qui a 7-8 ans. Et puis il a un deuxième fils qu'il a eu avec sa servante, sur les conseils de sa femme, je précise, qui a 17 ans. Alors, ils se réunissent, et puis, il y a des réflexions à table, si bien que le père est obligé de prendre son fils aîné, qui a 17 ans, et avec sa mère, les mettre dehors, parce que la femme légitime ne peut plus supporter cela. C'est dans Genèse, chapitre 21, Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Il la donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa son enfant sous l'un des arbres. Une autre version dit sous un des arbrisseaux. Puis elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc, c'est-à-dire à 300 mètres. Car elle disait, et voilà son problème, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Notez bien cette phrase, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, regardez son visage, « Qu'as-tu, Agar ?» C'est beau qu'il a des visages. « Qu'as-tu, Agar ?»« Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alors lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et si vous le voulez bien, nous arrêterons là notre lecture en disant, mes frères et sœurs, pensons un petit peu à Agar, cette maman d'un fils de 17 ans qui se trouve mise dehors de la famille, projetée. Elle vit une période terrible de douleur. Elle est désespérée. L'Écriture nous la montre en train de pleurer. Elle s'égare dans le désert, mais Dieu prend la situation en main. Et il y a ce matin, dans l'assemblée, des frères comme des sœurs, des papas comme des mamans, qui auraient besoin que Dieu prenne leur situation en main parce que ça ne va plus. Avec les enfants, on ne se cause plus. Et il n'y a pas longtemps, dans une certaine famille, même l'enfant vous a insulté et vous avez dit, ça vous faisait très mal. Lorsqu'ils étaient petits, ils vous accompagnaient ici. Et depuis longtemps, ils ne veulent plus. Ils ne sont pas forcément opposés, mais ils ne veulent plus. Et vous, mes frères, et vous, mes sœurs, qui croyez qu'après la mort, il y a la vie, n'avez-vous pas la même réaction que cette maman en disant « Je ne veux pas voir mon enfant mourir ». Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des frères et sœurs qui ne veulent pas voir leurs enfants inconvertis mourir ? S'il y en a, qui lève la main. Faites du bruit, dites « Amen » par exemple. D'accord, mais comme ça, je vois mieux. Je ne vois pas mourir mon fils. Ma sœur, mon frère, tu es peut-être venu au culte ce matin avec un grand fardeau. Tes sourires, c'est pour l'Église, mais du lundi au dimanche, dans la maison, avec tes enfants, c'est un champ de bataille. Alors Dieu a quelque chose à te dire. Qu'as-tu, Agar ? Voyez-vous, le visage d'Agar, de la maman, est tellement défait que ça impressionne Dieu qui lui dit, au travers de son ange, « Qu'est-ce que tu as ?» La fête de famille a été gâchée, je vais vous dire pourquoi. Parce que le fils Ismaël, de 17 ans, s'est moqué et a ri de son petit frère. Et ça n'a pas plu à l'autre épouse. Ça arrive dans les familles qu'il y a des conflits entre les uns et les autres, et quand il y a deux mères et un même père, ça ne va pas toujours non plus, n'est-ce pas? Et l'Écriture nous montre là que ils sont déchirés, et ça se termine par une femme renvoyée, rejetée, épuisée, égarée, abandonnée, qui n'a plus que les larmes et le désespoir dans son cœur. Elle est toute seule avec son fils. Eh bien, s'il y a quelqu'un dans la même chose ce matin, Dieu va intervenir dans ta vie et dans ton foyer. Dieu va intervenir dans ta vie et dans ton foyer. Et si Dieu ne le faisait pas, c'est alors que la parole de Dieu serait trompeuse, mais elle est vraie. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Maintenant, dites-moi, moi, il n'y a pas de problème, je suis célibataire, ou je suis une femme ou un homme célibataire tout seul, mais tu as de la famille. Est-ce que ça ne te fait rien que ta famille soit perdue? Est-ce que chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, nous ne voudrions pas que tous les membres de notre famille soient sauvés? Un homme n'a-t-il pas dit, nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? C'est pas vrai ça? Il a dit ça. Et puis, ici, nous avons le geôlier dans la prison, à qui Paul a dit, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croyez-vous que c'est vrai? Alors, est-ce qu'il y en a parmi nous dont la famille n'est pas au Seigneur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir? Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Croyez-vous que Dieu peut ouvrir les yeux, faire taire les méchants et sauver les âmes? Alors, on va le voir s'accomplir. Regardez bien. Lisons et regardons ce texte que nous avons devant les yeux. C'est une mère qui pleure parce qu'elle sait que son fils va mourir. Or, nous, chrétiens, nous croyons que la mort physique, c'est une chose, mais la mort spirituelle, c'est une autre chose. Mes frères et sœurs, la mort existe, ça on le sait. Mais c'est quoi la mort? C'est simplement le corps qui n'a plus d'action, mais l'esprit. Il vit, et il continue de vivre. Et c'est pour ça que nous devons, ce matin, dans ce culte d'adoration, trouver le chemin que Dieu veut nous donner pour que nos familles, nos enfants, les rebelles, ceux qui sont opposés ou ceux qui sont tout simplement ni méchants mais neutres, ça arrive ça, hein, ni pour ni contre, que le Seigneur puisse trouver le chemin de leur cœur, sommes-nous prêts à le faire? Alors on y va. Donc voyez-vous, car Agar est dans un temps de rejet, rejeté par Abraham, rejeté par la famille, rejetée par les moyens, parce qu'elle a un peu de pain, elle a un peu d'eau, mais l'Écriture nous dit que ça s'est épuisé. Il est arrivé un moment où il n'y avait plus rien. Et quand vous êtes dans le désert, sans eau et sans nourriture, avez-vous de l'espérance? Non. Donc c'est non seulement un temps où elle se sent rejetée, mais c'est un temps où elle est sans espérance. Et à tous les papas et à les mamans et à tous ceux dont qui sont parmi nous et dont la famille n'est pas convertie et que vous désespérez, Dieu a quelque chose à vous dire maintenant. Elle a mis son fils sous un arbre. Elle s'est reculée d'environ 300 mètres en disant, je ne veux pas voir mon fils mourir. Et ce matin, il y en a parmi nous qui au fond de leur cœur disent, je ne veux pas voir mon fils mourir, je ne veux pas voir mon mari mourir, je ne veux pas voir ma femme mourir, je ne veux pas voir mes descendants mourir. Seigneur, tu m'as donné la vie et je veux te prier pour que cette vie touche toute ma famille. Regardez notre Bible, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'a plus rien? Vous remarquez qu'elle prend son fils et qu'elle le met sous un arbre. Elle recule avec cette prière, je ne veux pas voir mon fils mourir. Et ce qui me frappe, C'est cette parole-là, je ne veux pas voir mon fils mourir. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelait David, et David avait un fils pratiquement sans défaut, de la racine des cheveux à la plante des pieds. Écoutez bien, mesdemoiselles, c'était le mari par excellence. Il était beau. Il s'appelait Absalom. Puis Absalom s'est opposé à son père. Ça arrive. Puis Absalom s'est rebellé contre son père. Puis Absalom a été tué. Le grand roi David, qui faisait trembler les géants, le grand roi David, qui réduisait à rien les Philistins, la Bible nous dit, quand il a appris cela, saisi d'émotion, il alla de chambre, en criant et en pleurant, « Absalom, mon fils, j'aurais voulu mourir à ta place. » Tout roi qu'il était, tout homme, oui, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais mes frères et sœurs, voyez-vous, la parole de Dieu comprend nos peines, nos misères et nos combats. « Absalom, mon fils, j'aurais voulu que ce soit moi qui meure à ta place. » Malgré tout la souffrance qu'Absalom a fait à son fils, il reste son fils. Malgré toutes les oppositions que vous avez, les disputes que vous avez dans la maison, les moments de silence, c'est votre enfant, c'est votre fille, c'est votre fils, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est votre cousin, c'est votre cousine, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Eh bien, le Dieu qui vous a sauvé veut que eux aussi soient sauvés. Je ne veux pas que Satan nous dise, il n'y a rien à faire, montez sauvés, priez de temps en temps pour eux. Non, voyez-vous, vous allez voir une prière qui va déclencher dans la vie d'Agar et de son fils un véritable réveil. Je vous invite à relire cette parole. Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point. Mes frères et sœurs, pourquoi cette femme pleure-t-elle ? Parce qu'elle sait que son fils va mourir et qu'elle n'a pas de moyens. Est-ce que c'est bien qu'elle pleure ? Répondez-moi par oui ou par non. Oui ? Est-ce qu'elle a raison de pleurer ? Ben bien sûr ! Et pourquoi elle pleure ? Elle n'aurait pas pu, puisque le Seigneur nous dit « Soyez toujours !» Pas évident ça, hein ? Regardez bien, mes frères et sœurs, il y a trois choses. Il y a trois choses négatives dans sa vie. La première chose, elle dit, mon fils va mourir. C'est ça qu'elle dit. Et quand elle dit ça, elle oublie une promesse que Dieu lui a faite. C'est vrai, cool, hein ? Quelques temps avant. Dieu avait dit, Ismaël, je vais en faire une grande nation. Donc, puisqu'il y a eu cette promesse-là, il ne peut pas mourir. Mais elle, la maman, elle a oublié la parole, elle dit, mon fils à mourir, je ne peux pas le voir. Mes frères et sœurs, et c'est souvent déjà là un des premiers problèmes de nos malheurs, c'est qu'on oublie la parole de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui va se passer à l'avance. Et Dieu avait dit, il ne mourra pas, je vais en faire de lui une grande nation. Mais le temps a passé et la maman a oublié. Bon. La deuxième raison qui est à regarder, c'est que ses yeux sont empêchés de voir. Elle ne voit rien. Elle voit que son outre d'eau est vide, il n'y a plus rien, alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas très loin, mais elle ne voit pas. Ses yeux sont gênés. Et vous savez, mes frères et sœurs, que des fois, nous avons des problèmes, et bien souvent, la solution est là et on ne la voit pas. Un exemple. Nous sommes le dimanche de Pâques en Israël. Près du jardin, il y a une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Elle pleure. Elle pleure. Le Seigneur s'approche. Elle ne le reconnaît pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Seigneur ? Marie, femme, pardon, pourquoi pleures-tu ? Et vous que le Seigneur s'intéresse à notre visage. Hein. Pourquoi pleures-tu ? Il dois enlever mon Seigneur, je ne sais pas où il l'a mis, où ils l'ont mis. Si tu sais où ils l'ont mis, dis-moi, j'irai le chercher. Et porter un cadavre pour une femme toute seule, non, bref. Elle n'a pas reconnu le Seigneur. Pourquoi n'a-t-elle pas pu reconnaître le Seigneur ? Parce que son chagrin était trop grand et ses yeux étaient remplis de chagrin et à cause de cela, il lui a fallu cette parole de Jésus qui lui a dit « Marie !» Et aussitôt, ses yeux se sont ouverts et elle l'a reconnu. Donc, elle pleure la mort de Jésus devant un Jésus vivant. Et où est-ce que fait la peine ? Puis-je prendre un autre exemple ? Parce que certains frères pourraient dire « Oui, mais les femmes pleurent facilement. » Ils sont deux sur le chemin d'Emmaüs. Deux. Et on dit que les femmes sont bavardes, ben ces deux-là, ils bavardent aussi. Ils bavardent tellement que ça attire les oreilles du Seigneur. Et le Seigneur leur dit « Mais, hé les gars, de quoi vous entretenez-vous pour être aussi tristes ?» Et immédiatement, les gars répondent, « Eh bien, tu sais pas, t'es un étranger, t'es pas au courant. Non, t'as pas écouté France Info. Non, 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 non. T'as pas écouté CNews. Mais non, 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 non. Je suis pas au courant de Pascal Praud. Non, je suis pas au courant de tout ça. » Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant. Nous espérions que, allez, vas-y. Et Jésus est là. Moi, je pense que Jésus a dû sourire. Il dit, allez-y les gars, videz votre sac. Hein. Mais maintenant, ça fait 3 jours, c'est fini. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés. Pourquoi ? Par la tristesse. Mes frères et sœurs, la tristesse, comme l'incrédulité et comme les soucis, ça vous aveugle et ça vous empêche de voir la gloire de Dieu. Christ est ressuscité et à côté d'eux, ils voient tout sauf le Christ ressuscité. Mais quand Jésus parle, comme quand il parle, Marie le reconnaît, quand Jésus leur parle et rentre avec eux dans la maison et au moment du repas, la Bible nous dit, leurs yeux s'ouvrent. Eh bien, regardez Agar. Ses yeux sont fermés et voit rien. Et dit, mon fils va mourir. Et la troisième chose que j'aurais souligné, non seulement elle oublie les promesses que le Seigneur a faites, et elle pleure sur ce besoin, elle oublie cette promesse, et puis, elle ne sait pas que son fils est en train de prier. Vous direz, c'est pas écrit ici, regardez. Dieu, la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est donc que l'enfant a dit quelque chose. Et des fois, mes frères et sœurs, vis-à-vis de nos enfants ou de ceux pour lesquels nous avons des combats et des luttes, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Et Dieu, lui, il le sait. Ce que j'ignore, Dieu le sait. Ce que je ne connais pas, Dieu connaît. Et la Bible nous dit que ce garçon-là, il a élevé sa voix. Elle n'a pas entendu, mais Dieu l'a entendu. Elle était à 300 mètres, elle n'a pas dû parler bien fort. Mais ce qui compte, c'est que Dieu l'a entendu. Voyez-vous, donc elle a ignoré la prière de son fils. Elle a oublié la parole et la promesse de son Dieu. Et la raison pour laquelle elle est là, démunie et sans force, c'est parce que son cœur était complètement rempli de la tristesse due au chagrin. Mais Dieu va se manifester d'une façon formidable. Mes frères et sœurs, il est possible qu'à un certain moment, on baisse les bras et on soit découragé. Est-ce qu'il y a eu parmi nous des frères et sœurs déjà découragés ? Au moins une fois. Eh bien moi, je vais vous dire, je lève les deux bras, les deux pieds et les doigts de pied. Le découragement, ça arrive. Non, c'est possible. Le grand apôtre Paul, qui a parlé sur l'espérance que donne le Seigneur. Acte 17, verset 20. Verset 20. Il est dans la tempête. Acte 27, pardon. Il est dans la tempête. Pendant des jours et des jours dans la nuit. Et l'Écriture dit, nous désespérions même de pouvoir nous en sortir. Tout l'apôtre Paul qu'il est. Et puis, si je lis dans 2 Corinthiens 1, 9, il dit, en Asie, on regardait comme certain notre vie de mort. On ne va pas s'en sortir. C'est Paul qui le dit. Mes frères et sœurs, il faut toujours faire attention des gens qui sont très spirituels et qui vous donnent des leçons. Moi, quand je rencontre quelqu'un de très spirituel qui me donne des leçons, je tremble et je dis, Seigneur, fais-leur du bien. Garde-les. Mes frères et sœurs, on reste des hommes et des femmes avec nos faiblesses. Bien sûr, vous allez voir que Dieu a le dernier mot. Mais bien sûr, il ne faut jamais essayer de baser notre force sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il va savoir agir. Car regardez, les yeux d'Agar vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle va voir ? Plusieurs choses. Des pompes funèbres. Un cimetière. Qu'est-ce qu'elle va voir ? Elle va voir, tenez-vous bien, vous êtes assis, un puits. Non pas une mare, non pas un étang, mais un puits, une source. Mais cette source, elle n'est pas arrivée à la seconde. Cette source, elle était là depuis longtemps, parce que Dieu savait depuis longtemps qu'il allait agir là. Mes frères et sœurs, dites-vous bien que votre Père sait à l'avance tout ce qui va nous arriver. Et il a déjà pourvu avant même que l'événement se produise. Vous me direz, oui, mais enfin, frère, c'est l'Ancien Testament. Prenez le Nouveau Testament. Les apôtres ont travaillé toute la nuit, rien à manger. Et le matin, ils arrivent sur la plage et ils voient un homme au loin qui leur pose la question. « Enfant, vous n'avez rien à manger ? Non. Vous n'avez rien pris ? Non. » Allez jeter le filet de tel côté. Et quand ils l'ont fait, ils ont fait la seconde pêche miraculeuse. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ils ont pêché, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, non pas 153 maquereaux ou 153 sardines, 153 gros poissons. Et savez-vous pourquoi ? Justement, ils ont pêché 153 grands poissons. Ils sont 12. Ah non, ils sont pardon, ils sont 11. Tu n'es plus là. Vous savez pourquoi ? Moi, j'aime des fois lire le texte des théologiens. Je perds mes cheveux, mais quand je lis certains théologiens, je perds le reste de mes cheveux. Et ils expliquent ça. 153, il y a un 1, il y a un 5, il y a un 3, 3 de la Trinité, 5, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole, enfin bref, ils ont un tas de choses. Et un jour, je discutais avec un théologien qui me pose la question, « Eh bien, écoute, toi, l'évangélique, le pentecôtiste, tu as une explication pour les 153 gros poissons qui ont été pêchés ?» Je dis oui, je sais. Où c'est que tu as étudié ça ? Ben, nulle part. Ben, parce que Dieu me l'a dit. S'il y a 153 gros poissons, et si c'est écrit 153 gros poissons, la raison toute simple, c'est que les poissons ont été comptés. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il faut aller en faculté pour répondre à cela ? Parce que je me suis mis à chanter « Compte-les, mets-les tous devant tes, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse. » Est-ce qui se qu'est-ce qu'il fait ? De quoi ? Alors on y va ! Compte-les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant. Qu'est-ce qui va se passer ? Combien le nombre mes frères et sœurs, au nom de mes collègues, des pasteurs et des anciens qui sont ici, merci de nous avoir encouragés, parce que vous avez chanté en nous regardant et en disant « Compte les bienfaits de Dieu » et nous l'avons enregistré. Hein ? Une dernière fois, vous allez chanter en regardant votre voisine. Votre voisin. Et là, vous ne pouvez pas faire une grimace. Vous ne savez pas quel est son besoin. Et dites-le en chantant, simplement. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et mon frère, ma soeur, tu verras combien le nombre en est grand. Amen. Comptez les bienfaits de Dieu. Et quand ils sont arrivés, alors qu'ils avaient bossé toute la nuit, rien, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé non seulement du poisson, mais un feu allumé. Et la Bible nous dit un repas préparé, des poissons dessus, une bonne grillade, comme là-bas dit. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'était fait à l'avance. Voyez-vous, et je voudrais vous dire, ma sœur, mon frère, toi dont les enfants ou la famille est inconvertie, tu ne sais pas ce que Dieu a déjà préparé à l'avance. Mais Dieu, il voit l'avance, et il te dit ce matin, aie confiance, regarde vers moi, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car quatre choses étaient nécessaires pour cette femme. Mes frères et sœurs, vous connaissez tous cette parole, ce beau psaume, je crois que c'est le 32, verset 10, qui dit, les méchants nous entourent, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Vous l'imaginez pas, vous voyez pas, mais vos voisins, c'est la grâce. Vous êtes environnés par la grâce, tous, autant que vous êtes. La grâce de Dieu, chez vous, dans votre maison, chez vous, dans votre voiture, ici, dans la salle, environnés de grâce. Et quand Dieu nous ouvre les yeux, on voit que la grâce de Dieu, c'est de pourvoir à tous nos besoins. Quatre choses pour terminer. Mes frères et sœurs, elle pleurait, ça n'allait pas. Et pourtant, la présence de Dieu était là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ma sœur, mon frère, hier, il y a eu des disputes dans ton foyer, mais Dieu est là. Non seulement il est là, mais Dieu a ce dont tu as besoin. Il est là avec des mains pleines. La bénédiction de Dieu, nous dit la Bible, c'est ce qui enrichit. Mes frères et sœurs, prenez l'exemple de Gédéon. La Bible nous dit qu'il était en train de cacher son froment. Il mélangeait la farine et le vin. Enfin bref, c'était la pagaille. Et la Bible nous dit, et l'Éternel était là, assis. Et Dieu le regardait. Et le brave Gédéon, et regardez s'il n'y avait pas quelques madianites par là. Il mettait de la farine dans le raisin dans la farine. Il voyait tout, sauf que Dieu était assis. Moi, je crois que Dieu devait sourire. Et puis, comme ça n'en finissait pas, Dieu a ouvert la bouche et lui, « Salut à toi, vaillant héros !» Gédéon, « Vaillant héros !» T'aurais pu dire triste aux héros, mais vaillant héros. Voilà ma sœur, voilà mon frère, comment Dieu te voit ce matin. Tu es un héros en Jésus-Christ. En lui, tu es plus que vainqueur. En lui, les démons tremblent. En lui, Satan est terrassé. En lui, l'opposition s'écarte. Et c'est toi qui as le dernier mot, parce que c'est Dieu qui vit dans ton cœur. Et c'est lui qui saura toucher les cœurs de ceux qui t'entourent. Ainsi donc, voyez-vous, la présence de Dieu était là. Et le pauvre Gédéon, il en a raconté des histoires. Il dit, le Seigneur est avec moi. Mais où est la puissance? Où sont les miracles qu'on nous raconte? Où? Et Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Et mes frères et sœurs, Gédéon a été un vainqueur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, nous ne sommes pas venus au culte pour nous lamenter que tout à l'heure, dans la prière, mes frères et sœurs, ce soit que des chants de louange, des paroles de louange. Il n'y a pas besoin d'en faire une longueur. Un mot, une parole, quelques mots, ça suffit du moment que ça monte d'un cœur généreux pour réjouir le cœur du Dieu vivant et vrai. Alors, regardez, la présence de Dieu est là. Puis, regardez la deuxième chose, la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à Agar? Qu'as-tu, Agar? Agar, t'as l'air bizarre. Qu'est-ce que t'as? Ah, tu t'es fait foutre à la porte? Ah ben, tu l'as cherché, hein? Oh. Est-ce que Dieu a un raisonnement semblable? Qu'as-tu, Agar? Mais c'est de ta faute, tout ce qui t'arrive. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas le langage du Saint-Esprit. Regardez ce que dit Dieu à Agar. Qu'as-tu, Agar? Il lui donne son prénom pour pas qu'elle se trompe. Hein. C'est bien à toi que je m'adresse, dit Dieu. Ne crains point. Et Dieu lui rappelle la promesse. Eh bien, ce matin, ma sœur, mon frère, Dieu veut te rappeler les promesses qu'il t'a faites et ce qu'il t'a fait va se réaliser, j'en suis convaincu, parce qu'il confirme toujours ce qui est dit dans sa parole. Ainsi donc, il y a la présence de Dieu qui est là, il y a la parole de Dieu qui nous rappelle et qui nous ramène à la parole. Méfiez-vous toujours de ceux qui ont des révélations sur ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Méfiez-vous parce que c'est souvent de faux prophètes. Tout a été écrit dans la parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas vérifier ce qui est écrit, ce n'est pas écouté. Ce qui est écrit est écrit. Et la Bible nous dit que Agar a été encouragée. La troisième chose qu'elle a reçue dans son cœur, c'est cette force magnifique, à mon avis. Ses yeux se sont ouverts. Elle a retrouvé goût à sa vie. Elle a vu là quelque chose qui était là depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait pas imaginer. C'était vrai aussi pour Abraham. Abraham, vous rappelez-vous? Avec son fils, il devait offrir. Et il y avait un bélier qui était déjà là. Dieu dans sa grâce est le Dieu qui pourvoit avant même que nous ayons des besoins, que son Saint-Nom soit béni. Ce qui est important, à mon avis, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est cette parole de Dieu. Ismaël grandira, sera une grande nation. Ça veut dire que Dieu a un avenir. Et si vous voulez, je voudrais vous inviter. J'ai reçu beaucoup de téléphones. C'est rare de Paris. Enfin, je reçois beaucoup de téléphones de Normandie, c'est normal. Non, ce n'est pas les vaches qui me téléphonent, non, c'est les gens, bien sûr. Mais beaucoup d'entre vous, à cause d'une promesse que je vous ai rappelée hier, la semaine dernière, il y a 15 jours. Et je voudrais la rappeler pour terminer, parce que je crois que c'est scripturaire, et c'est dans le livre de Jérémie. Là je vais vous donner le texte pour que vous n'ayez pas besoin de me téléphoner en me disant, c'est où? C'est dans le prophète Jérémie. Vous l'avez? Chapitre 31. Eh oui, notre pasteur, mon frère Claude, a déjà trouvé. Ça y est, psaume 31. Jérémie 31. Maintenant, mes frères et sœurs, en lisant, pensez à tous les membres de votre famille. Vous voulez bien? Qui ne sont pas convertis. Est-ce que je peux lire maintenant? Bon. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Il y a de l'espérance. Ils reviendront dans leur territoire. Et leur territoire, c'est le nôtre, c'est celui de la grâce de Dieu. Ils reviendront. Ma sœur, mon frère, on va courber nos fronts, s'il te plaît.